Ah, tellement heureux de vous retrouver encore ce matin dans les maisons, alors qu'on est chacun chez nous, on continue, alors qu'on est en groupe, alors qu'on est avec des frères, avec des sœurs, ou avec nos enfants, avec nos parents, on continue cette série Simplicité. Et c'est tellement bon de continuer cette série. Et ce matin, alors qu'on est là tous ensemble, même si le format est différent, Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, tu vas être béni? Je t'entends pas. Tu vas être béni. Parce que Jésus, c'est pas une question de où on est, c'est une question de Jésus où il est. Et Jésus est avec nous en ce moment même. Alors, ce titre du message, c'est simplicité ne t'empêche pas de crier. Je rassure pour certains, je t'empêche pas de crier. Je rassure certains. J'ai pas dit de crier sur tes enfants ou de crier sur ton patron. Ok? Mais de crier à Dieu. De crier à Dieu. Je me souviens lors de la naissance, alors j'ai 3 enfants, lors de la naissance de mes enfants, c'est pas moi qui les ai mis au monde, ok, c'est mon épouse, mais je sais qu'un enfant, la première chose qu'il fait lorsqu'il naît, il crie, il arrête pas de crier, et c'est spontané, ça sort comme ça. Le premier son qui sort, c'est un cri. Et peut-être que nous, on a perdu un petit peu cette spontanéité, peut-être cette simplicité de crier comme un enfant, de crier. Parce que Dieu est notre Père. Nous, on raisonne beaucoup, on réfléchit beaucoup. La simplicité d'un enfant. Un enfant, je vois Nathan Caleb, notre dernier. L'enfant, il ne se lasse pas de répéter les choses. Tant que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, j'ai soif, j'ai faim, tant que tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, il continue de répéter avec la même intensité. Et l'enfant s'attend toujours à ce que ses parents viennent. Ce matin, une des choses que le Saint-Esprit veut nous rappeler, c'est que une vérité fondamentale, c'est que la bonté de Dieu n'est pas épuisée. C'est que sa bonté n'est pas épuisée pour nous. On peut s'attendre à Dieu parce qu'il est bon. C'est pas simplement que Dieu a de la bonté, c'est qu'il est éternellement bon. Mais et notre cri de foi ce matin, et notre cri n'est pas fondé sur les circonstances, mais notre cri est fondé sur la bonté de Dieu. Cette parole ça me rappelle Moïse. Moïse qui avait ce cri dans son cœur, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et peut-être c'est un cri qui est dans ton cœur ce matin. « Seigneur, peut-être tu l'as déjà dit, « Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta face. » Et Dieu a répondu à Moïse, « Je vais te montrer toute ma bonté. Je vais proclamer devant toi qui je suis. Je vais te montrer une partie de qui je suis. Et je vais te montrer ma bonté. » Et encore ce matin, Dieu veut nous remontrer, Dieu veut nous faire découvrir, redécouvrir pour certains sa bonté. J'aime bien cette traduction de Lamentations 3:23 en parole de vie qui nous dit « La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de nous montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. » Ah là 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 là, je crois que tu n'as pas compris encore. Il n'a pas fini de montrer son amour. Ce matin, Dieu veut te montrer son amour. Sa bonté et son amour sont tout neuf pour toi. Quelque chose de nouveau pour toi ce matin. Quelque chose de nouveau en réserve pour toi ce matin. Je crois que malgré qu'on soit peut-être, on est en streaming, etc., on n'est pas en présentiel. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu a quelque chose de nouveau pour toi dans ta maison. Dieu a une grâce qui veut relâcher une nouvelle. Il veut faire pleuvoir et je le déclare sur la terre desséchée. Peut-être c'est ton cas, tu te sens sec ce matin, mais Dieu veut faire pleuvoir sur ta terre desséchée. Est-ce que tu peux le dire « Amen » avec moi? Est-ce que tu peux le déclarer sur ton voisin? Dieu veut déclarer, Dieu veut faire pleuvoir sur ta vie. Amen. Lisons ensemble dans le psaume 107, versets 1 à 14. Je vais le lire rapidement, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment capter ce que Dieu dit, ce que le psalmiste va dire. « Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le déclarent, le proclament, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. » qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous de fer. Il a brisé les verrous de fer. Dans leur détresse, il a crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il a fait et il les a fait échapper de la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend et Dieu prend plaisir à répondre lorsqu'on crie à lui. Et c'est tellement important de réaliser que des fois on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça bouge pas. J'ai l'impression que les anges sont pas avec moi. Mais le problème, c'est pas que les anges sont pas là. Le problème, c'est que les anges sont au chômage. Les anges ne travaillent pas parce que on crie pas à Dieu, parce que notre cri n'est pas basé sur qui est Dieu, mais notre cri est basé parfois sur les circonstances. Et Dieu, lorsqu'il entend nos cris, il ordonne aux anges de se mettre en mouvement. On va voir ensemble une femme qui ne s'est pas retenue de crier à Dieu. Dans le texte passe dans Matthieu 15, c'est la femme cananéenne. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici, une Cananéenne vint de là et se mit à crier. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Allez, je crie un peu. « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il répondit par un mot. Ses disciples s'approchant lui dit « Renvoie-la, car elle nous poursuit par ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai pas été envoyé. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre des pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, répondit-elle. Et justement, les petits chiens viennent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit, femme, ta foi est grande. Qu'il t'arrive comme tu veux. Et sa fille fut guérie à l'heure même. Waouh, quel texte! Lisant rien que ce texte, pour moi, ça vient me challenger. Et je crois que ce texte a tellement à nous enseigner. Et Jésus, on voit que Jésus est parti de là. Donc Jésus est parti, quand on lit le contexte, Jésus est parti de la Galilée pour venir à Jérusalem, pour venir, pardon, dans cette région de Phénicie. Mais pourquoi Jésus va faire ça? Et je crois qu'il y avait vraiment un rendez-vous de Dieu. Parce que c'est dans cette région-là, il n'y avait que des Cananéens, il n'y avait que des étrangers. Et Jésus va venir ici, dans cette région-là. Dans Marc, il nous dit que Jésus s'est déplacé, mais il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Mais cette femme-là l'a reconnu. Cette femme l'a reconnu. Cette femme l'a reconnu. À un moment donné, quand tu es spirituel, à un moment donné, tu reconnais que Dieu est là. Tu vas là où Dieu est. Tu cours. Même si Jésus est là-bas, tu vas là-bas. Tu cours. Et Jésus était là-bas. C'est pas un hasard. Et Jésus est là aujourd'hui même. C'est pas un hasard ce qu'on vit. Tout à l'heure, on parlait du streaming. C'est pas un hasard. Dieu a prévu ce moment déjà avant que nous savions que ça allait arriver. Il n'y a pas de hasard, Dieu n'est pas surpris. Et mon premier point, c'est cette femme qui va avoir un cri, elle ne va pas s'empêcher de crier, elle va avoir un cri qui reconnaît son besoin. Elle a un cri qui est l'expression de sa soif, en fait. C'est une démonstration intérieure d'une souffrance, une démonstration extérieure d'une souffrance intérieure. Elle désire les choses, change. Elle en a marre. Il y a comme une intensité dans son cri. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Pour elle, c'est aujourd'hui que Jésus agit. Jésus passe, Jésus part demain. Mais elle a ce profond désir de recevoir de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va souligner cette femme, lui dire, waouh, ta foi est grande. Elle va être reconnue pour sa foi. Et la question que je me pose, et qu'on peut se poser ensemble, c'est, est-ce que j'ai réellement besoin de Jésus si je n'ai aucun problème à résoudre? Est-ce que j'ai réellement besoin de Jésus si j'ai aucun problème à résoudre? Ce qui a poussé le fils prodigue à retourner voir son père alors qu'il était parti loin de son père, alors qu'il était loin, ce qui l'a poussé à revenir vers son père, ce n'était pas l'amour, c'était la faim. C'est parce qu'il souffrait de la faim, parce qu'il avait faim, parce qu'il est rentré en lui-même et il avait la conviction que si je vais voir mon père, alors il va me traiter au moins comme un serviteur, parce qu'il était convaincu que son père ne le laisserait pas mourir de faim. Non, il savait que son père était bon. Et je crois vraiment en cette vérité fondamentale. On a besoin de réaliser qu'on a besoin de Jésus. Notre cri doit se baser sur une soif, sur un désir. Mais on doit se déculpabiliser de venir à Dieu pour nos besoins. Parfois, on peut sentir coupable de venir à Dieu parce que j'ai un besoin. Mais non, Dieu est un bon Père. Il est tellement heureux de nous donner des bonnes choses. De bonnes choses à ses enfants. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour les malades. Mais je suis venu pour les malades. Tu sais si tu suivais en fait. Je suis venu pour les malades, mais non pas pour ceux qui sont en bonne santé. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus n'a pas dit, je suis venu pour les élites, pour ceux qui pratiquent la loi, pour ceux qui prient 5 heures par jour. Je suis venu pour les super spirituels. Je suis venu pour les bonnes personnes. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. La bonne nouvelle, si t'es malade, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus est venu pour toi. La bonne nouvelle, c'est si tu as un besoin, Jésus est venu pour toi. Si tu as besoin d'être secouru, alors tu peux crier à l'Éternel. Alors tu es qualifié pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Tu es qualifié pour recevoir ta visitation ce matin. Mais Jésus, si Jésus est celui qui, finalement, est celui qui résout les problèmes, si tu n'as pas de problème à résoudre, Jésus peut rien pour toi. Jésus est celui qui résout les problèmes. Si tu penses n'avoir aucun problème, Jésus ne peut rien pour toi. Le problème, c'est qu'on croit trop souvent qu'on peut y arriver par nous-mêmes. En fait, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est qu'on pense qu'on peut y arriver tout seul. Où on pense qu'on a assez de ressources en nous-mêmes et que finalement tout va bien. Et en fait, on est en train de dire à Jésus, j'ai pas vraiment besoin de toi, en fait. Ça va. Regarde, j'ai un boulot, j'ai un CDD. Tranquille. J'ai pas vraiment, en fait. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend le délivre de toutes ses détresses. En fait, mon niveau de désespoir va déterminer l'intensité de mon cri, par conséquent, l'action de Dieu dans ma vie. À quel point je suis désespéré, à quel point j'ai tellement besoin de Jésus, à quel point je suis désespérément besoin de Jésus comme cette femme cananéenne. Dans Matthieu 5, 1, pardon, dans Matthieu 5, 1, il est écrit « Heureux !» Qui c'est qui est heureux ici ?« Heureux !» Heureux, oh là là, il y a des heureux. Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Waouh ! Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui marchent dans l'humilité. Heureux ceux qui disent, Seigneur, je me reconnais spirituellement pauvre. Je reconnais que j'ai désespérément besoin de toi. Je viens à toi, j'ai encore besoin de toi. Je ne suis pas satisfait de ma vie spirituelle. Je ne suis pas satisfait de ce que je vis aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu, je bénis Dieu, je loue Dieu, mais je ne suis pas satisfait parce que j'ai faim de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui ont faim de Jésus? Je reconnais que j'ai tellement besoin dans tous les domaines de ma vie. Et parfois on dit, ben, j'ai beaucoup de choses. Parfois on croit qu'on est arrivé, tu vois, on est dans une saison simplicité. Ouais, mais je connais déjà ça, j'ai déjà entendu. Ouais, mais frère, ça fait 15 ans que je suis converti, 15 ans que je connais ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans, oui, moi aussi. Et l'orgueil spirituel dit, je n'ai besoin de rien et de personne, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Apocalypse 3, 17, tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu méprises, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, tu le sais même pas. Ouf. Ça fait mal, le Saint-Esprit me disait, mais tu le sais même pas. tu le sais même pas. Alors arrête de croire que tu as. Tu le sais même pas. Tu es pauvre, aveugle et nu. Seigneur, c'est vrai, je le sais pas. Je veux faire comme David. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Parce que moi, je sais pas. Je crois y être arrivé. Mais en fait, non. Je crois parce que j'ai des visions, parce que je vois dans l'esprit. Je crois que non. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et Dieu, dans son amour, Dieu va tout faire pour nous ramener à notre besoin de lui. Dieu, tu vois, il va tout faire parce qu'il nous aime tellement qu'il va nous ramener à notre besoin de lui. Il y a des feux dans nos vies, j'ai écrit ça, qui sont allumés, que l'ennemi va allumer pour distraire notre focus de Dieu. Mais il y a aussi des tempêtes créées par Dieu lui-même pour nous ramener à la maison. Tu vois, mais c'est écrit où? Jonas. Jonas. Dieu a créé une tempête pour que il puisse dire oui, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Parfois, Dieu crée des situations dans nos vies par amour, parce qu'il veut que l'on puisse continuer. Il veut qu'on revienne dépendant comme un enfant dépendant à son père. Je dis, il y a des fleuves secs qui le sont secs par la volonté du Père. Et parfois, Dieu va fermer des portes. Parfois, Dieu ouvre des portes. Amen, alléluia. Mais parfois, Dieu ferme des portes. Mais quand même, amen, alléluia. Parce que je crie plus fort lorsqu'une porte est fermée que quand une porte est ouverte. Et je veux remercier Dieu. Merci Seigneur pour les portes ouvertes. Mais moi aussi, merci Seigneur, je te loue, pas pour ta bonté, pour les portes fermées. Car je ne doute pas et je ne veux pas douter. Je ne veux pas douter de ta bonté, même quand elles sont fermées. Peut-être qu'il va permettre qu'on soit affamé. Il sait comment s'y prendre pour ma vie. Il sait comment s'y prendre pour la vie de mes enfants. Il sait comment s'y prendre pour la vie de tes enfants. Il sait comment s'y prendre pour la vie de tes parents. Il sait comment s'y prendre pour tes voisins. Il sait comment s'y prendre. Il sait comment s'y prendre. Dieu va utiliser n'importe quoi. Parfois, il va nous faire silence, comme il a fait à cette femme cananéenne. Parfois, il va faire silence, comme il a fait à cet aveugle. Et la Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort. Jésus, aie pitié de moi! Dieu nous aime tellement qu'il va faire tout. Parfois, ça peut être des injustices, des pressions financières. Ah, Jésus. Le psaume 107 nous dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Combien le cœur de Dieu, Dieu aime qu'on crie à lui. Dieu aime et Dieu attend une chose, c'est qu'on puisse crier à lui, qu'on puisse crier à lui. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Et juste avant, dans ce passage, la Bible nous dit que ceux qui habitaient dans les ténèbres, c'est pas dans les notes, mais ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il les a humiliés. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Et après, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dieu me disait, humilie-toi devant moi avant que je le fasse à travers les circonstances. Dieu nous aime tellement que parfois, il va utiliser comme les Israélites. Il va utiliser les circonstances pour nous humilier. Il va attendre qu'on crie à lui. Quand il souffrait pendant 400 ans d'esclavage, il l'a attendu. Mais j'attends pour manifester ma grâce. J'attends que tu cries à moi pour manifester ma grâce. Je veux. Il l'a attendu. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu nous aime. Dieu ne nous laissera pas couler. Dieu ne nous laissera pas couler. Vous voyez cette passage de Pierre dans mon esprit où il était sur l'eau, il marche sur l'eau. Quel moment glorieux. Pierre marche sur l'eau. Alors Jésus est sur l'eau. Pierre dit à Jésus, laisse-moi venir. Pierre, il lui dit, oui, je viens sur ta parole. Jésus, il s'accroche et il va sur l'eau. Il marche sur l'eau. À un moment donné, il commence à s'enfoncer parce qu'il commence à douter. Mais Pierre n'a pas coulé. Dieu ne te laissera pas couler. Dieu ne te laissera pas couler. Même si tu as douté de sa bonté, Dieu ne te laissera pas couler. Même si tu as douté des circonstances, même si tu as douté, Dieu ne te laissera pas couler. Déclare-le ce matin. Dieu ne me laissera pas couler. Dieu ne me laissera pas couler. Ah Seigneur, aide-nous. Que cette foi qui est empreinte d'humilité, cette foi qui est empreinte d'humilité, qui touche le cœur de Dieu. Quand c'est que la dernière fois que mon cri de foi pour toucher Jésus a choqué les gens autour de moi? Quand c'est que la dernière fois que je me suis jeté comme ça dans la rue, j'ai crié, ou dans ma maison, ou... Est-ce que ma foi est politiquement correcte? Parce que je ne veux pas déranger. Mais il n'y a pas d'humilité sans vulnérabilité. Il n'y a pas d'humilité sans vulnérabilité. Crier à Dieu passe aussi par reconnaître mon besoin aux autres. Prier à Dieu, c'est aussi dire aux autres, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, aidez-moi. Peut-être que tu te sens fort, mais le Saint-Esprit te dit, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Si tu n'arrives pas à t'exprimer ton besoin, à demander de l'aide, peut-être que il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à reconnaître ton besoin devant Dieu. Alors ce matin, est-ce qu'on peut réaliser que rien ne nous empêche de crier à Dieu comme cette femme cananéenne, qu'on puisse un cri qui réalise son besoin. Et mon deuxième point, c'est un cri qui s'appuie sur un cri qui s'appuie sur qui est Dieu. Un cri qui s'appuie sur qui est Dieu. Parce que notre besoin de Jésus, lorsqu'on crie à Dieu, cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler que Jésus a guéri. Elle a entendu parler que Jésus a sauvé. Donc elle est allée, elle a crié. Mon cri est toujours basé sur qui Dieu est. Et non pas sur les circonstances. Parce qu'il est bon, il est compatissant, il est rempli de miséricorde. Son cri a été basé sur la bonté de Dieu, sur qui Dieu est, et non pas sur les différentes barrières dans sa vie. Quand on regarde, il y avait tellement de barrières qui auraient pu l'empêcher. Les disciples voulaient l'empêcher d'aller voir Jésus. Les disciples, mais aussi c'était une femme et lui c'était un homme. Il y avait la barrière sociale, la barrière religieuse, c'était une étrangère. Il y a tellement de barrières. Quelle est la barrière qui peut nous empêcher de crier à Dieu? Qui peut nous empêcher de crier à Dieu? Et les barrières ne sont rien face à qui Dieu est. Peut-être des fois c'est mon raisonnement, je ne suis pas digne. Peut-être des fois c'est la culpabilité, comme je disais tout à l'heure, je me sens pas, j'ai l'impression de saouler Dieu avec mes besoins. Est-ce que je peux aller avec lui? Est-ce que je vais devant lui seulement pour mes besoins? Ou le regard des gens? Ah, le regard des gens. Ah, le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire, vont penser si je fais ça? Ou si je crie à Dieu pour telle et telle chose dans ma vie, pour tel péché, pour tel besoin? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Réaliser qui Dieu est me pousse à sortir du politiquement correct, mais à me prosterner à ses pieds en criant avec foi. Me sortir, Seigneur, du politiquement correct. Chose comme on les fait toujours, comme on doit les faire. Faut pas déranger. Mais alors que cette femme allait vers Jésus, ce n'était pas toléré qu'une femme allait parler à un rabbin. Surtout une étrangère d'une autre religion qui n'était pas juive. Donc ce n'était pas toléré. Quand je crie à Dieu, moi, est-ce que dans mon cri de foi, je fais peut-être des choses qui sortent de l'ordinaire, peut-être qui peuvent choquer d'autres personnes, mais est-ce que je réalise que c'est pas aux hommes que je crie, c'est à Dieu, à ce Dieu-là qui est rempli de bonté, qui est rempli de bonté. Alors j'aimerais, alors que on réalise que cette femme ne s'est pas appuyée sur sa connaissance, cette femme, ce qui me parle dans ce texte aussi, c'est que on n'en parle pas assez, je crois, mais on en parle souvent, d'ailleurs, récemment. Ne limite pas la puissance de ton témoignage. ne limite pas la puissance de ton témoignage. Cette femme a entendu un témoignage. Peut-être. Cette femme a entendu parler de Jésus. Il ne l'a jamais vu. Mais ne limite pas la puissance du témoignage que tu reçois dans ta vie. Lorsque j'entends que Dieu a béni Suzanne, mais moi, ça m'encourage. Parce que je sais que si Dieu l'a fait avec Suzanne, il peut le faire pour moi aussi. Si j'entends que Dieu a visité et a guéri Fabien, alors je sais que ce Dieu-là, il peut le faire pour moi aussi. Si Dieu l'a fait pour la femme à la perte de sang, si Dieu l'a fait pour le paralytique de 38 ans, si Dieu peut le faire pour moi aussi. Ne limite pas le témoignage que tu entends et ne limite pas le témoignage que tu déclares, que tu donnes, que tu cries, parce qu'il y a une puissance dans le témoignage, parce que la foi est créée lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on entend ce que Dieu fait. Alors la foi crée dans les cœurs et Dieu peut agir. Un cri qui reconnaît son besoin, un cri qui s'appuie sur qui Dieu est, sur sa bonté, sur son amour, et un cri qui reçoit sa portion. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, dans les évangiles, nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus qui répond aux attentes. Jésus qui, alors que la femme a une perte de sang, elle vient, elle touche le bord de son vêtement, Jésus va dire qui m'a touché et va dire ta foi est grande et qu'il te soit fait selon ta foi. Alors que le Bartimée, l'homme aveugle, un autre homme aveugle dans la parole de Dieu dit « Aie pitié de moi, Seigneur !» Et il va dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il va le dire aussi à l'homme dans la piscine de Bethesda, 38 ans, qu'il est comme ça, « Que veux-tu que je fasse ?» Et il va dire à cette femme « Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il se fasse ce que tu veux. » Waouh ! Jésus est en train de dire que j'ai une portion que je dois aller saisir ce matin. Et le mot, quand la Bible nous dit que dans le texte on a lu « Ta foi est grande !» Ta foi est grande. Le mot c'est méga. Et méga, une des traductions de ce mot méga, c'est fort. Alors vous reconnaîtrez qui je parle, fort et puissant. C'est traduction du mot, c'est pas moi. Fort, puissant et aussi violent. J'ai besoin d'une prière violente. Elle a eu une prière violente, une foi violente, pardon, une foi violente. Comment est ma foi? Alors, une foi violente, waouh, qui s'est emparée de la bénédiction, qui n'attend pas de recevoir une parole. Elle va dire même à un moment donné, Seigneur, oui, mais les miettes, parce qu'il va dire quand même, Jésus. Hein. Et là, Jésus lui fait silence déjà. Des fois, parfois, Dieu fait silence dans nos vies et on est au plus mal, ok? Là, Jésus fait silence. Elle continue. Elle va se mettre à ses pieds. Elle va crier au secours, Seigneur. Et là, il va dire, il n'est pas bon que, en fait, je suis venu pour les enfants d'Israël. Je suis pas venu pour toi. Donc, en fait, les pains des enfants, je vais pas donner aux chiens. Elle a dit, oui, mais les petits chiens ramassent les miettes. Elle est en train de dire qu'une miette de Jésus, juste un peu, juste approcher, juste toucher, juste une miette de Jésus peut répondre à son besoin. Je crois que tu n'as pas capté. Juste 5 minutes, juste 2 minutes, juste peut-être, pas besoin, des fois je veux passer des heures, oui c'est bon, mais juste peut-être, un petit peu selon toi de Jésus, peut répondre à un grand besoin dans ta vie. Et en fait, pour un besoin d'aujourd'hui et pour demain, cette femme a eu cette foi incroyable. Et j'avais écrit ça, le juste vivra par la foi et non pas par la prophétie. Parfois, on attend tellement d'une prophétie. Parfois, on attend tellement d'une parole de Dieu. Et c'est bon. Je dis pas qu'il faut pas. Et on aime la prophétie, on aime la parole de Dieu. Mais sa parole, c'est qui Dieu est. C'est qui Dieu est. Et on l'a dit tout à l'heure, les bontés de Dieu se renouvellent, Dieu est bon. Donc Jésus, c'est fou dans le texte, Jésus n'a pas prophétisé sur sa vie, Jésus n'a pas donné une parole prophétique sur sa vie, mais c'est elle qui a par sa parole, a activé la parole de Dieu. par ta parole, par ta foi, par ton cri, tu peux activer la parole de Dieu dans ta vie. Tu peux entendre Dieu qui te dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est elle, avec son audace, avec sa détermination, elle a activé le bras de Dieu dans sa vie. Saint-Esprit, alors que je conclue mon message, le Saint-Esprit veut répondre à tes attentes. Oui, nous croyons en la prophétie. Oui, nous croyons que Dieu donne des paroles. Mais le juste vivra par sa foi, et non pas par la prophétie. Par sa foi. Seigneur, ce matin, nous pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors que je conclue, je rappelle, ce qu'on a vu ensemble ne t'empêche pas de crier à Dieu. Un cri qui reconnaît son besoin. Un cri qui sort de tout ce qui est du politiquement correct, mais un cri qui reconnaît profondément son besoin de Jésus. Un cri qui s'appuie sur qui Dieu est. Un cri qui reçoit sa portion. Ce matin, alors qu'on est dans les groupes dans nos groupes, dans nos maisons, ose libérer un cri de foi qui va arracher ta bénédiction. Ce matin, sois violent. Ce matin, sois violent. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais sois violent. Peut-être tu as besoin de travail. Peut-être tu as besoin de vivre une guérison. Peut-être que tu as besoin, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire comme Moïse. Et Dieu veut te dire, je vais manifester ma bonté au travers de toi. Peut-être que tu es dans les maisons, mais peut-être aussi tu nous regardes en streaming. Dieu veut te dire qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu répond aux attentes. Quelle est ton attente ce matin? Augmente ton attente. Augmente ton attente. Augmente ton attente. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ne doute pas de la bonté de Dieu. Ne doute pas que Dieu est bon. Ne doute pas. Dieu est un bon père. Et il y a un son spirituel qui doit sortir ce matin. Il y a un son spirituel qui doit sortir. Alors que on est dans nos maisons, il y a un son spirituel qui doit sortir. Là où tu es, commence à parler en langue. Là où tu es, commence à parler en langue. Sokaria baba babaria ma sokarie bebe berumara. Debera baria ma sakara baria marie deribere beribere. Lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi dans la maison là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Dire Seigneur, oui, je suis là. Oui, je m'attends à toi. Lève-toi. Kora baria 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 baba baria ba sokaria mara karia sokarie deri. Darabaria mari ki sekere beribere.